Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, nous retrouvons cette semaine un enseignement de Sœur Emmanuelle de la communauté des Béatitudes. Tout d'abord sur le mystère de la miséricorde et le chapelet de la divine miséricorde donné par le Seigneur à Sainte Faustine, et puis sur le sacrement de la réconciliation, et enfin sur le ministère des prêtres par qui nous recevons la miséricorde divine.
Bonjour, la paix soit avec vous. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, à vous qui êtes en souffrance. C'est que Jésus, le Christ, nous a laissé un cadeau extraordinaire au cours du XXe siècle, à travers une grande sainte que Jean-Paul II a canonisée en l'an 2000, la première sainte de l'an 2000, Sœur Faustine Kowalska de Pologne. Et cette sainte, qui était une religieuse polonaise, a reçu de nombreuses visites du Christ durant sa vie, sa courte vie, puisqu'elle est morte à 33 ans. Et durant ces visites, le Seigneur lui a donné un cadeau pour vous, pour moi, pour le monde entier. Ce cadeau a été connu dans beaucoup, beaucoup de pays, a fait déjà beaucoup de miracles, mais je voulais vous l'annoncer aujourd'hui. Il s'agit de ce qu'on appelle le chapelet de la miséricorde. C'est un chapelet qui a été dicté entièrement par Jésus, donc il a tout expliqué comment le dire. C'est un chapelet qui s'adresse au Père, qui est différent du chapelet que nous connaissons où nous nous adressons à la Vierge Marie. Et c'est un chapelet qui est beaucoup plus court et qui porte des fruits que lui-même a clairement expliqués à Sœur Faustine pour nous tous. Alors, je vous propose de prier ensemble ce chapelet, mais avant de le prier, j'aimerais vous faire connaître quelques-unes des paroles du Christ lui-même qu'il a confiées à Sœur Faustine afin de vous encourager à prier ce chapelet avec nous de tout votre cœur et à obtenir les fruits que Jésus a promis. Les grâces vraiment extraordinaires dont nous avons tant besoin en notre siècle où tant de gens souffrent, tant de gens peinent, tant de gens ne savent plus leur direction, ne savent plus à quel saint se vouer, ne savent plus comment gérer leur situation, leur souffrance. Bref, Jésus est venu nous tirer de la misère. Alors voilà quelques phrases que j'ai lues dans le petit journal de Sœur Faustine, qui est d'ailleurs disponible dans toutes les librairies catholiques, c'est un best-seller. Voilà quelques phrases de Jésus lui-même laissées à Sœur Faustine. « Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet. » Moyennant bien sûr la confiance. Jésus parle beaucoup de la confiance en son amour et en sa miséricorde. Les prêtres donneront ce chapelet aux pécheurs comme une ultime planche de salut, et même le pécheur le plus endurci, s'il récite ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. Une autre citation de Jésus. Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Excellent, excellent. Je continue. Alors, comme on parlait de la mort, Jésus promet la grâce de la conversion à l'heure de la mort et la grâce d'une mort paisible. Aussi bien pour les personnes qui prient le chapelet que pour les personnes pour qui on prie le chapelet. Donc, il est très particulièrement recommandé de prier ce chapelet auprès des agonisants. Regardez ce que Jésus dit. À l'heure de la mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récite ce chapelet elle-même, ou bien, si d'autres le récitent près de l'agonisant, l'indulgence est la même. Ça, c'est de l'or en barre. Ça, c'est un cadeau extraordinaire du ciel dont nous avons absolument besoin aujourd'hui. Je ne voulais pas vous laisser sans le connaître. Alors, ce chapelet est très simple. on prend le même chapelet que l'on prend pour le chapelet de la Vierge Marie. On commence par le Notre Père. Ensuite, on dit un Je vous salue Marie. Ensuite, le Je crois en Dieu. Et puis après, les dizaines. Le Notre Père est remplacé par une courte prière. Et puis chaque Je vous salue Marie de la dizaine est remplacé par une très courte invocation à la miséricorde du Père. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à vous laisser expérimenter cette magnifique prière qui va certainement vous changer la vie, vous redonner de l'espérance, du punch, de la foi, de la confiance et beaucoup de joie.
Vous savez que j'habite à Medjugorje et que j'ai hâte de vous communiquer un très très beau message que la Mère de Dieu, parmi ceux que la Mère de Dieu nous donne à Medjugorje pour le monde entier, pour changer notre vie, pour retrouver la santé de l'âme et du corps, pour être heureux sur la terre et avec elle dans le ciel. La Mère de Dieu apparaît chaque jour en ces temps qui sont ces temps à elle. Et elle nous donne des messages, des instructions pour chacun de nous et nous aimons les vivre et les transmettre. Un message qui m'a semblé très important à vous donner aujourd'hui, c'est celui de la confession. La Vierge, dès le début des apparitions, a donné un signe qui a été retenu par tout le village parce qu'il était mémorable. Un jour, la Vierge est apparue aux voyants, il y avait donc 6 voyants et derrière eux, il y avait les villageois, les paysans de Medjugorje, le village, disons. Et ce jour-là, elle a dit une chose exceptionnelle, elle a dit « Chers enfants, aujourd'hui, tous ceux qui sont présents pourront me toucher. » Alors, les voyants étaient étonnés parce qu'ils ont dit « Mais non, chère maman, tu vois bien, ils ne peuvent pas venir te toucher parce qu'ils ne te voient pas. » Et elle a dit « Si, ils vont pouvoir me toucher, prenez-les chacun. » un par un, et amenez-les-moi par la main, et ainsi ils pourront me toucher. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque villageois a pu s'approcher de la Vierge, et sans la voir, ils ont pu toucher, alors la tête, le voile, l'épaule, ils ont vraiment la main, ils ont vraiment touché cette femme qui était, bon, sans la voir. Et ils ont été très impressionnés, inutile de vous dire que la grâce a été immense. Et au cours de cette, quand tout le monde a été passé, les voyants se sont rendus compte que des taches sont apparues sur la robe de la Sainte Vierge. Et ils ont été très bouleversés par ça. Et ils ont crié, mais maman, maman, voilà que des taches sont apparues et ta robe est devenue toute sale. Écoutez bien la réponse de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge leur a dit, chers enfants, ce sont les péchés de ceux qui me touchent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de la confession. Et la confession qui va avec la guérison du cœur. Ce sont les péchés de ceux qui me touchent. Alors les voyants crient, ne touchez plus la Sainte Vierge, vous allez mettre des taches. Ils se sont reculés, un peu honteux, le nez par terre. Et la Vierge a continué en disant, chers enfants, je vous invite à purifier vos cœurs du péché. Car avec le péché, il n'y a pas la paix. Avec le péché, personne ne peut être heureux. C'est pourquoi je vous invite, chers enfants, à vous confesser une fois par mois. Une fois par mois, confession mensuelle. Car, dit-elle, il n'y a personne sur la terre qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. La confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. Un remède. Et je vous demande de propager ce message dans le monde entier. C'est pour ça que je vous le donne aujourd'hui. Elle nous demande de vivre ce message, la confession mensuelle minimum, et de le propager. Et en le propageant, nous pourrons sauver une âme. Quelqu'un qui ne va pas se confesser, il dit « Allez, viens avec moi, je vais me confesser. » Et la personne dit « Ah oui, tu as raison, ça fait 20 ans que je ne me suis pas confessée. On y va, et j'en ai besoin. » Et si la personne se moque de vous, eh bien, vous avez gagné au moins une béatitude, numéro 8, quand Jésus nous dit « Ah, quand on dira du mal de vous à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel auprès de mon Père céleste. » Vous avez gagné une béatitude. Dans les deux cas, vous sauvez quelqu'un, et dans l'autre cas, vous avez une béatitude. Vous gagnez tout sur tous les tableaux. vivez ce message et mettez-le en pratique devant les autres pour qu'eux-mêmes soient attirés par ce moment de confession où on est en vérité devant Dieu et où on se laisse laver de ses péchés. Alors, inutile de vous dire que la vie du village de Medjugorje a changé de ce jour-là. Des réconciliations inespérées entre les familles, des guérisons physiques, des guérisons intérieures, des bienfaits, une joie surtout, une liberté. Et les prêtres ont fait leur métier de prêtre. Voilà. Je voudrais vous donner un exemple très, très connu à Medjugorje, surtout parmi les Américains. C'est notre ami Jim. Notre ami Jim est catholique d'origine. Sa femme était très pieuse, est très pieuse. Et il a eu 11 enfants. Il avait un bon travail, etc. Mais voilà qu'il a été atteint d'un cancer. Et ce cancer s'est propagé, plein de métastases. Bref, pour faire une longue histoire courte, Jim était en stade terminal du cancer. Et il savait qu'il en avait pour peu de temps. Il a accepté cette mort, mais bon... Voilà. Il ne pratiquait pas. Jamais de confession, la messe une fois de temps en temps pour faire plaisir à sa femme. C'était un peu l'horreur. Et sa femme souffrait beaucoup de ça, surtout qu'elle voyait que son mari allait mourir. Elle suppliait le Seigneur. Alors, vous voyez, les femmes sont quelquefois intelligentes, fines. Elle a monté un coup avec les amis de son mari. Elle a réuni les amis de son mari et elle leur a dit « Voilà, s'il vous plaît, emmener mon mari à Medjugorje en lui disant voilà, tu vas visiter la Bosnie-Herzégovine, les plages sont magnifiques, il y a des montagnes, il y a un air pur, ça va te faire du bien. Les médecins ne sont pas d'accord que vous l'emmeniez, mais on n'a rien à faire, de toute façon, il est fini. Donc prenez-le, c'est sa dernière chance de rencontrer le Seigneur avant de mourir. Je vous en supplie, prenez-le. Et quand vous êtes là-bas, eh ben, prenez-le dans le village, tout ça, mais montrez-lui les choses. Et dès que vous êtes près des confessionnaux là, qui sont près de l'église, poussez-le dans un confessionnal et puis arrivera ce qui arrivera. Les amis ont été d'accord. Ils ont pris Jim avec eux. Ils lui ont fait un portrait mirobolant de la nature à Medjugorje, etc. Voilà les choses. Et puis, la ville de Dubrovnik, Mostar, tout ça, il a été d'accord pour partir. Et dès le premier jour arrivé à Medjugorje, ils ont suivi les instructions de son épouse. Jim a été poussé dans un confessionnal. Ils ont attendu dehors. Une minute se passe, il n'en sort pas. Bon, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes... Une demi-heure, 3 quarts d'heure, il ne sortait pas. 1 heure, il sort complètement illuminé. Mais un regard complètement changé. Complètement changé. Alors il a parlé avec ses amis et il leur a dit, vous savez quoi, maintenant, ça ne me ferait rien du tout de mourir. Parce que maintenant que j'ai fait ma paix avec Dieu, maintenant que j'ai rencontré Jésus, eh bien j'ai hâte de le retrouver au ciel. Alors ça ne me ferait rien du tout de mourir. Je suis prêt. Je suis content de retrouver Jésus au ciel. Alors les amis ont été stupéfaits. Il avait fait un lavage, un nettoyage complet de toute sa vie. Il avait dressé tous ses péchés et la miséricorde était tombée en lui. Le prêtre était vraiment, voilà, il a été patient et tout. Et il avait fait sa paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu a fait que quand il est rentré en Amérique, il devait se faire opérer. Donc, comme toutes les fois on se fait opérer, il y a un dernier scanner au début de la journée pour voir où on place, comment les choses ont évolué, etc. Scanner, le cancer avait complètement disparu. Il n'y avait plus de métastase, il n'y avait plus rien. Il est aujourd'hui encore vivant, après peut-être bien 10 ans que cette chose se soit passée. Ses enfants, ses 11 enfants, étaient très contents de garder leur père. L'épouse, n'en parlons pas, était très contente de pouvoir garder son mari, et c'est la joie. Et depuis lors, il revient chaque année à Medjugorje avec une grande partie de sa famille pour remercier pour le don de cette guérison, mais surtout de la guérison de son cœur, parce que maintenant son cœur est avec Dieu. Cet homme qui était un petit peu froid, un petit peu distant, qui était un petit peu, disons, dans son monde intérieur, tout ça, il est redevenu un très bon époux, un très bon père, et c'est la joie qui règne dans cette maison. Et cette conversion a provoqué d'autres conversions dans son entourage. La Sainte Vierge nous dit, chers enfants, confessez-vous une fois par mois minimum. Car dans la confession, chers enfants, vous avez une rencontre personnelle avec Dieu et une rencontre dans la vérité. Vous savez que le Padre Pio passait des heures et des heures au confessionnal, hein, et il aimait bien qu'on se prépare à la confession, qu'on se prépare de tout son cœur. que l'on se prépare à faire la paix avec Dieu dans la vérité. Je vous raconte une anecdote très vite, on a peu de temps. C'est une Américaine du Sud qui était venue auprès du Padre Pio pour se confesser. Elle avait fait tout ce trajet pour rencontrer le Padre Pio, et elle s'est mise dans cette longue, longue file interminable de ceux qui attendaient pour se confesser au Padre Pio. Ça durait des heures. Et au moment où elle arrive enfin en tête de ligne, si j'ose dire, le Padre Pio sort du confessionnal, c'est lui qui venait chercher les personnes. Il l'ignore complètement, il fait semblant de ne pas la voir, et il prend la seconde personne. Elle est choquée, elle se dit qu'est-ce qui s'est passé, il a peut-être eu, je ne sais pas. Et elle a refait toute la queue une deuxième fois. Et arrivée en tête de ligne, à nouveau, le Padre Pio l'ignore complètement, et il prend la deuxième personne. Il dit qu'est-ce qui se passe ? Elle était profondément blessée, profondément troublée. Elle repart chez elle, dévastée. 5 ans après, elle retente sa chance. Bien sûr, elle avait souffert, elle avait... Voilà. Elle retente sa chance, elle revient. Elle refait la queue chez le Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Et quand elle arrive en tête de ligne, le Père Padre Pio sort de son confessionnal et lui dit « Venez, venez avec moi ». Elle y va, elle fait une bonne confession. Et à la fin, quand elle a été bien sûre de recevoir l'absolution... Elle lui rappelle ce qui s'est passé 5 ans auparavant. Il dit, mon père, mais pourquoi est-ce qu'il y a 5 ans, vous m'avez ignoré 2 fois? Ça m'a fait beaucoup souffrir. Pourquoi vous avez fait ça? Et le Padre Pio lui dit, madame, lorsque vous êtes venue il y a 5 ans, vous n'aviez aucune repentance de vos péchés. Vous n'aviez aucune intention de changer votre vie. Vous êtes venue à San Giovanni Rotondo pour pouvoir rentrer chez vous et dire à tous vos amis, moi, j'ai été me confesser au Padre Pio. C'était votre gloire personnelle. Vous n'aviez aucune contrition de vos péchés. Vous n'étiez pas prête à recevoir l'absolution. C'est pour ça que j'ai pris une autre personne. Mais aujourd'hui, vous avez réalisé votre péché. Vous avez le repentir dans votre cœur, je le vois. C'est pour ça que j'ai accepté de vous prendre et de vous donner l'absolution. Voyez, dans la confession, nous avons une rencontre en vérité avec Dieu. Et cette rencontre en vérité avec Dieu fait que Jésus peut, avec son sang, nous laver de toutes ces ordures que laisse le péché en nous. Cette laideur que le péché donne à notre âme, qui a été créée splendide à l'image de Dieu, et le sang de Jésus qui va couler sur notre âme, va nettoyer cette splendeur qu'est notre âme, qui est faite pour ressembler à Jésus. Et ça va la nettoyer de toutes les défigurations, de toutes les distorsions, de toutes les perversions, de toutes les saletés, toutes les noirceurs. Et ce sang de Jésus va nous rendre comme au moment de notre baptême, va nous laver, et nous allons bénéficier non seulement d'un renouveau de notre cœur, nous allons recevoir la miséricorde, nous allons devenir plus miséricordieux, mais aussi nous allons guérir de cette injection des poisons de Satan en nous qu'est le péché, pour être complètement ressuscité. Et avec cette confession, nous sommes forts pour exercer la miséricorde, et nous avons la joie de celui qui revient, hein, comme l'enfant prodigue revient dans les bras du Père, et le Père nous donne l'anneau aux doigts, les belles chaussures aux pieds, le manteau des noces, et nous sommes à nouveau le Fils bien-aimé du Père qui peut rentrer dans l'étreinte d'amour que Dieu, de toute éternité, a préparé pour nous. La confession mensuelle, nous dit la Vierge Marie, est un remède pour le monde d'aujourd'hui, un remède pour l'Église d'Occident. Reprenez le chemin du confessionnal, reprenez le chemin des bras du Père. Son cœur vous attend. Il n'est qu'amour et miséricorde. Ne le laissez pas vous attendre trop longtemps. Dès aujourd'hui, faites un rendez-vous avec le prêtre, car le prêtre représente Jésus. Jésus se cache derrière le prêtre et Jésus vous attend dans le confessionnal. Je voudrais partager avec vous en particulier des messages qu'elle adresse aux prêtres et à nous les laïcs, comment nous comporter vis-à-vis des prêtres. Vous savez que les prêtres sont pour la Vierge d'autres Christ. Quand elle voit un prêtre, elle voit Jésus en eux. Même si ce prêtre n'est pas forcément excellent, extrêmement fidèle, Marie voit que cette personne a été consacrée prêtre, et que le grand prêtre a donné sa prêtrise à cet homme. Et elle voit son fils. Elle ne dit pas le père un tel, l'abbé un tel, elle dit mon fils. parce qu'elle voit dans le prêtre son fils. Et elle a un amour très particulier pour les prêtres. Quand elle parle des prêtres, elle dit « mes fils bien-aimés, mes fils de prédilection ». Voilà. Alors bien sûr, elle donne des messages aux prêtres afin qu'ils soient de bons prêtres. Mais d'abord, elle donne un message à nous qui ne sommes pas prêtres, à nous les laïcs, pour que nous puissions vivre avec les prêtres et pour les aider aussi. Alors elle nous dit, chers enfants, en particulier, elle nous dit, chers enfants, ne jugez pas vos prêtres, ne critiquez pas vos prêtres. Chers enfants, vos prêtres n'ont pas besoin de vos jugements. Ils ont besoin de votre prière, de votre amour, de votre aide. Car aujourd'hui, il est très difficile pour un prêtre d'être fidèle. Ils ont besoin de vous, de votre prière. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos bergers. Priez afin qu'ils soient de bons bergers et qu'ils vous conduisent sur le chemin de Jésus. Quand la Vierge a donné des instructions aux prêtres, elle leur a dit « Que les prêtres vivent mes messages comme les autres personnes. Que les prêtres disent chaque jour leur rosaire. Qu'ils prennent du temps pour le rosaire, car ainsi ils vont vaincre Satan dans les attaques que Satan veut faire contre l'Église catholique. Ils vont empêcher Satan de détruire les destructions qu'il veut faire contre l'Église catholique. » Alors, quand on partage ces messages sur le rosaire avec les prêtres, quelquefois, enfin, surtout les prêtres de l'Occident, je ne sais pas, en Orient, au Moyen-Orient, mais ils ont tendance à dire « on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais comment est-ce qu'on pourrait caser un rosaire dans la journée ?» Alors je vais donner l'exemple d'un prêtre que j'ai rencontré. Il était responsable d'une grande paroisse à Paris. Et ce prêtre a eu l'idée de me poser cette question « qu'est-ce que Marie ?» Je dirais l'imprudence de me poser la question « qu'est-ce que Marie a donné comme message particulier pour les prêtres ?» Et je lui ai dit « mon père, vous savez, Marie vous demande, en tant que prêtre, de réciter votre rosaire chaque jour. » Et là, il se met à hurler. « Mais c'est pas possible. Ma sœur, que vous me demandiez ça, c'est pas possible. Si vous voyez le programme que j'ai, déjà, j'ai pas le temps de finir tout mon travail. C'est impossible que je case un rosaire dans ma journée. » Je dis « Mon père, excusez-moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui vous dis ça. C'est la mère de Dieu qui parle. Et elle sait de ce dont elle parle. Elle connaît votre vie. Non, non, c'est pas possible. Ne me dites pas ça. Je ne peux pas dire mon rosaire. » Je dis « Mon père, j'ai une idée. Comme c'est la mère de Dieu qui parle, essayez. » Elle n'a pas dit « je demande à tous les prêtres de dire le rosaire, sauf le père untel qui est votre cas, parce que vous êtes trop occupé. Tous les prêtres sont occupés. » « Oui, mais ma soeur, j'ai dit « mon père, écoutez, on va faire un test. On va essayer. Vous allez prendre votre chapelet, votre rosaire, et par amour pour elle, vous allez lui donner sa chance. Quand vous allez rentrer à Paris, vous allez prier un rosaire. Vous allez pousser quelque chose d'autre dans votre programme et vous allez prier votre rosaire. Et puis si vous en mourrez, ben vous en mourrez. Mais si vous n'en mourrez pas, demain, vous ferez encore ça. Et pendant 3 semaines, je vous demande de faire le test. Pendant 3 semaines, priez votre rosaire chaque jour. Et puis vous prendrez vos conclusions après. Ma sœur, je vais faire comme ça. Je crois que ça ne va pas marcher, mais je vais essayer, je vais tenter la chance. » Et puis le prêtre s'en va. Il s'en va, une année passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Au bout de 3 ans, je vois revenir le prêtre à Medjugorje. Je le vois arriver de loin, je me dis « Hum, c'est le prêtre du rosaire. » Bon, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée le voir et puis je lui dis « Mon père, bonjour mon père, comment allez-vous? Comment ça va là-bas? Mon père, et le rosaire ?» Il m'a répondu « Ma sœur, le rosaire, ça marche !» J'ai dit « Allez, racontez-moi comment ça marche, ma sœur, voilà. » Quand je suis rentrée à Paris, je vous dis franchement, sincèrement, je n'y croyais pas, mais j'avais fait cet engagement avec la Vierge, avec vous. Je me suis dit « Je vais tenir mon engagement. » J'ai casé mon rosaire dans la journée. Et à mon grand étonnement, c'est que j'ai eu le temps de faire tout le reste de mon travail. Je me dis « Tiens, c'est un hasard. » Le lendemain, j'ai redit mon rosaire. Et à mon grand étonnement, le soir, j'ai eu 5-10 minutes libre, avant de me coucher, j'ai pu lire un petit peu. Je me suis dit, ça doit être le hasard. Le troisième jour, j'ai dit mon rosaire. Et là, j'avais un petit peu plus de temps pour méditer, le soir, avant de me coucher. Je me suis dit, là, c'est très étonnant. Le quatrième jour, encore un petit peu plus de temps. Et les gens de ma paroisse commençaient à me dire, « Qu'est-ce qui se passe, mon père? Vous êtes beaucoup plus paisible que d'habitude. » Oh, je me suis dit, il se passe quelque chose. J'ai continué mon rosaire. Et chaque jour, je voyais des choses nouvelles apparaître dans ma vie. Les gens étaient plus heureux. Les gens commençaient à venir me dire, « Mais mon père, vous avez changé, qu'est-ce qui se passe? Vous n'en voyez plus promener les gens comme ça, c'est très sympathique, c'est très, très bien pour nous. » Et puis, j'avais plus de paix, j'étais plus calme, je perdais mon stress et tout ça. Et au bout d'une semaine, et plus j'ai compris. J'ai compris comment la mère de Dieu avait fait avec moi. Que quand je priais mon rosaire, elle marchait devant moi. Elle m'ouvrait des portes que d'habitude j'avais à pousser, à défoncer. Je me donnais du mal, j'étais stressée, j'étais fatiguée, épuisée même, un petit peu nerveux, tout ça. Et elle passait devant moi et elle ouvrait les portes. Elle préparait le cœur des gens avec qui j'avais à parler. Elle m'aidait dans mes homélies. Pendant la messe, j'avais plus de recueillement. Et ben voilà, j'ai compris une chose, c'est que la mère de Dieu est la collaboratrice du prêtre. Elle est la mère du prêtre. Elle est celle envoyée par Jésus pour nous aider, pour nous faciliter la vie comme elle l'a fait pour son fils Jésus, pour nous ouvrir les chemins. Alors il y a d'autres messages, bien sûr, que bon, je pourrais raconter beaucoup d'autres témoignages. Un prêtre qui a commencé à arrêter de fumer à partir du moment où il a dit le rosaire, sans aucun effort, il pouvait plus fumer. Un autre qui avait de graves tentations sexuelles, il s'est dit, bon, je vais dire mon rosaire, la Vierge le demande, je vais le dire. Et il a été complètement apaisé de ces tourments sexuels qu'il avait continuellement, etc., etc., vous voyez. Voilà. Un autre message aussi que la Vierge a donné pour les prêtres. Elle a dit que les prêtres devaient parler d'une manière très simple dans leurs homélies. Elle a dit que votre homélie vienne du cœur, que votre parole vienne du cœur, qu'elle soit simple, pour que tout le monde puisse la comprendre, qu'elle n'ait pas de notions théologiques ou philosophiques trop compliquées pour le peuple, afin que tout le monde puisse comprendre. La Vierge aussi a demandé aux prêtres d'être très généreux dans leur bien personnel pour les pauvres. La Vierge a demandé que les prêtres partagent beaucoup avec les pauvres et donc qu'ils soient ouverts à tous les besoins des pauvres. La Vierge aussi leur a demandé de beaucoup prier. Elle a demandé que dans chaque paroisse, il y ait une chapelle d'adoration perpétuelle et que le prêtre aide les fidèles à prier. Que les prêtres aident les fidèles et tout le monde à prier le rosaire, qu'ils expliquent le rosaire, qu'ils montrent l'exemple de rosaire, aussi de l'adoration. Voilà. Je crois que j'oublie quelque chose. En tout cas, la Vierge nous a demandé à nous. Dans le dernier message qu'elle a donné, elle a dit « Chers enfants, je vous demande de prier pour les prêtres, comme jamais encore auparavant. » Ah oui, voilà, ça me revient. La Vierge a demandé aux prêtres d'aller vers les incroyants, de visiter les incroyants, parce qu'elle nous dit que c'est à cause des incroyants que le mal arrive dans le monde. Les divorces, les guerres, les conflits, les avortements, les suicides, la drogue, toutes ces choses-là nous viennent à cause des incroyants. Que les prêtres aillent vers les incroyants, pour les aider à trouver le chemin du Seigneur, qu'ils parlent de Jésus et que leurs paroles soient vraiment dans l'affection, dans l'amour, qu'elles sortent du cœur. Aujourd'hui, le prêtre est très attaqué par Satan parce que un prêtre qui devient saint, c'est des milliers d'âmes qui reviennent vers Jésus, qui reviennent vers le Père et qui sont sauvées. Mais un prêtre qui tombe, c'est des milliers qui tombent. C'est pour ça que la Vierge nous demande de beaucoup prier pour eux. Et je voudrais exhorter tous les prêtres en leur disant « Merci pour le oui qu'un jour vous avez donné à Jésus. Merci pour ce oui que vous avez donné sincèrement à Jésus. Et tous, nous les laïcs, nous allons vous aider à tenir ce oui, à tenir ce oui précieusement, parce que c'est votre plus grande grandeur, votre plus grande gloire d'être prêtre de Jésus, un autre Jésus à l'autel, un autre Jésus au confessionnal, un autre Jésus dans les sacrements. Merci pour votre oui, nous prions pour vous. »